France Culture.
Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
C'est une mesure historique qui a eu lieu lundi dernier à l'Assemblée nationale. La proposition de loi dite Duplomb visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur a été rejetée avant même son examen par l'Assemblée nationale après des débats extrêmement tendus et renvoyée directement en commission mixte paritaire. Officiellement, pour détourner les milliers d'amendements apportés par la gauche, officieusement, pour faire accepter ce texte très controversé d'une manière plus rapide. Controversé, car ce texte de loi dénoncé par plus de 1000 chercheurs dans une lettre ouverte début mai propose entre autres la réintroduction d'un pesticide invasif et dangereux pour la biodiversité et les humains banni en France depuis 2020. Alors comment comprendre l'impact de cette loi si elle est votée sur la biodiversité et sur la santé humaine? Pour nous éclairer ce soir, Philippe Grandcola, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes écologue et directeur de recherche au CNRS, adjoint scientifique de l'Institut Écologie et Environnement. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du Soir. Et je le disais en introduction, cette loi, si elle est votée, permettra de réintroduire un pesticide appelé acétamipride de la famille des néonicotinoïdes, un produit interdit depuis 2018 en France. Philippe Grandcola, quel serait le niveau de régression, si je vais directement au sujet, le niveau de régression du point de vue environnemental de cette loi ?
Bah écoutez, il y a plusieurs articles de la loi, non seulement bien sûr la réintroduction d'un pesticide particulièrement toxique, mais également d'autres articles qui concernent le stockage de l'eau, le type d'élevage que l'on veut mettre en place, et puis également qui finalement donne l'autorisation de mise sur le marché pour des produits pesticides en France. Est-ce qu'il s'agit de l'ANSES, comme c'est le cas actuellement, une agence qui fait la synthèse de la littérature scientifique, ou est-ce qu'il s'agit au fait d'une espèce de comité mixte dans lequel on retrouverait les filières de producteurs qui rappellent de sinistre mémoire ce qui s'est passé avec l'amiante, où finalement des personnes avec des conflits d'intérêts très forts, puisqu'elles vendaient cette substance, étaient aux manettes pour continuer à l'utiliser avec les conséquences que l'on sait. Effectivement, on met beaucoup en avant, et à juste titre, la réintroduction de l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde, donc un insecticide très toxique et toxique qui attaque le système nerveux des insectes et qui malheureusement a aussi des conséquences pour l'ensemble des organismes vivants. Bien sûr, tous les insectes, y compris ceux qui sont pas des agresseurs des cultures, donc par exemple les pollinisateurs qui se trouvent dans les parcelles traitées ou au voisinage, et puis également les oiseaux, les mammifères et bien sûr les humains. Donc c'est une substance, alors on a entendu beaucoup de choses erronées à son propos, à propos du fait qu'elle serait finalement pas très toxique, au motif qu'elle est une des moins toxiques des néonicotinoïdes, qui sont eux-mêmes beaucoup plus toxiques que la majeure partie des pesticides. Donc en fait, elle reste effectivement très toxique et surtout elle reste dans l'environnement naturel pendant plusieurs centaines de jours. Elle peut être en solution dans l'eau et on peut la retrouver donc de fait emmenée avec l'eau dans des parcelles adjacentes, dans les cours d'eau, etc. Et malheureusement, puisque cet insecticide est encore autorisé dans certain nombre de pays européens, on s'aperçoit qu'on est capable de le retrouver à l'intérieur du corps humain et qui franchit la barrière placentaire et puis la barrière du système nerveux, avec des conséquences potentiellement très graves pour la santé humaine.
Alors soyons clairs tout de suite, Philippe Grandcola, que dit la littérature scientifique ? Est-ce que le consensus est absolu sur ces conséquences sur la biodiversité et sur la santé humaine que vous venez de pointer, de mettre en exergue ?
Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand on met sur le marché une substance comme ça, c'est une décision réglementaire, administrative, qui est prise à partir d'un examen des bénéfices et des risques. Autrement dit, si les risques sont trop importants, même s'il y a des bénéfices pour, par exemple, les filières utilisatrices, on va pas mettre cette substance sur le marché, tout simplement parce que les risques sont trop élevés et les risques, ils sont mesurés par les agences réglementaires à la base, sur la base de tests réalisés par les fabricants en matière de toxicité aiguë. Donc ça veut dire qu'on va tester, par exemple, pour un insecticide sur des abeilles, quelle est la dose qui tue la moitié des abeilles en application directe. Et malheureusement, c'est une mesure qui n'est pas acceptable, qui n'est pas une bonne mesure, parce qu'elle elle néglige tous les aspects de toxicité chronique, c'est-à-dire sur le long terme, finalement. Voilà, si on voulait faire une comparaison de mauvais goût, on dirait, voilà, quel est le nombre de bouteilles de whisky qui serait capable de tuer un humain s'il les boit les unes après les autres. Ça, c'est la toxicité aiguë. Bon, effectivement, on peut survivre à l'ingestion d'une bouteille entière de whisky, mais est-ce que pour autant on sera en bonne santé si on réalise, voyez, l'exercice quotidiennement pendant plusieurs mois? Ben, c'est ce qui se passe avec les tests de toxicité aiguë sur les insectes, d'autant plus que l'abeille domestique, finalement, n'est pas l'insecte le plus sensible à la plupart des pesticides. En l'occurrence, pour l'acétamipride, il y a des insectes qui peuvent être très importants pour l'agriculture ou pour l'environnement, hein, des pollinisateurs, mais pas seulement, qui sont sensibles des centaines ou des milliers de fois plus que l'abeille domestique. Donc en fait, la littérature nous indique que c'est une substance toxique, qu'elle nuit gravement à l'état neurologique des insectes. Donc même si elle ne les tue pas immédiatement, elle peut les rendre fortement incapable de s'orienter, de retrouver la ruche, par exemple, pour une abeille, ou de se reproduire, ou de se comporter, on va dire, de manière habituelle. Et donc, ça aboutit à des effets de toxicité chronique sur le long terme. Ce que nous dit aussi la littérature, c'est que c'est une substance qu'on retrouve dans le liquide céphalorachidien des enfants, dans certains pays d'Europe, où la substance est encore utilisée. Et on sait par ailleurs qu'elle gêne la construction du système nerveux chez ces mêmes enfants. Donc, c'est un trouble, évidemment, particulièrement grave.
C'est une étude qui avait été menée, effectivement, en Suisse sur 14 enfants. 13 enfants sur ces 14 de l'échantillon avaient vu au sein de leur liquide céphalo-rachidien des restes de cette substance. Je voudrais vous faire entendre Arnaud Rousseau, le président de la FNESEA, qui s'exprimait le 27 mai dernier sur RMC. Il soutient évidemment, j'allais dire, ce projet de loi.
Oui, c'est une bonne nouvelle, même si c'est difficile d'expliquer à un agriculteur que ceux qui ont défendu la loi l'ont rejeté hier à l'Assemblée et que le spectacle qui a été donné n'est pas un spectacle très réjouissant. Ce qui compte pour nous, c'est encore une fois d'avoir des résultats concrets dans les cours de ferme après près d'un an et demi, vous l'avez dit, de mobilisation. Et notre objectif, encore une fois, c'était d'attirer l'attention des pouvoirs publics et notamment des députés sur la forte attente du monde agricole. À partir du moment où le texte continue sa vie, si je puis dire, et ne fera pas l'objet d'obstruction, il va donc aller maintenant en commission mixte paritaire. C'est un peu compliqué, mais on va rester extrêmement vigilants jusqu'au bout de la vie de ce texte, parce que moi, les agriculteurs, quand ils m'interrogent, ils me disent... Et pour nous, c'est quand ?
Si je reste quand même un instant, Philippe Grandcola, sur l'intérêt, le point de vue des agriculteurs, et que je reste également un instant sur ce pesticide, hein, l'acétamipride, est-ce qu'il existait depuis 2018 des produits de substitution efficaces, ou en tout cas des produits qui permettaient de pallier l'absence de ce produit sur le marché ?
Alors effectivement, on connaît les risques, hein, et les risques sont trop importants pour qu'on puisse remettre le produit sur le marché, mais y avait-il des bénéfices ? Effectivement, il y a un certain nombre de bénéfices, hein, relatifs dans certaines filières qui sont très souvent mentionnées par les proposants de cette loi, comme la filière noisette, 7000 hectares en France. Et en particulier en agriculture conventionnelle, parce qu'on peut produire la noisette en bio, bien entendu, hein, il n'y a aucun problème, ou dans la filière betterave de 100 000 hectares, hein, qui est destinée à produire des sucres pour l'agroalimentaire de mauvaise qualité et puis pour les agrocarburants. Oui, effectivement, ça peut aider à avoir une rentabilité supérieure, puisque ce sont des cultures de rente, hein, pour des PME agricoles qui essayent d'avoir des modes de culture qui soient pas trop lourds en temps travaillé, qui ont une bonne rentabilité. Alors cela dit, voilà, est-ce que pour autant c'est un argument pour prendre un risque pour la santé, en l'occurrence la santé également des intéressés, hein, c'est-à-dire des agriculteurs, de leurs enfants, des riverains, de toutes les personnes finalement qui vont se trouver dans un environnement pollué, ça c'est une autre question. Et bien entendu, la réponse est négative. C'est la raison pour laquelle la France avait interdit ce produit. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'agence européenne, l'EFSA, hein, a même demandé justement qu'on ait des travaux supplémentaires sur les effets sur la santé humaine, parce qu'elle considérait les premiers résultats comme extrêmement inquiétants. Hein. Et ces travaux, malheureusement, n'ont pas été réalisés. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une impasse mais une impasse qui devrait plutôt nous amener à utiliser le principe de précaution, et d'autant plus que, encore une fois, sur les 400 000 PME agricoles qui existent aujourd'hui en France, il y en a très peu, finalement, qui gagneront quelque chose à la réintroduction de l'acétamipride, et puis très peu également qui gagneront quelque chose à la limitation de l'utilisation de la science dans la mise sur le marché des produits pesticides. Je crains que ça nuise plutôt à la santé des agriculteurs. On sait qu'ils sont déjà aujourd'hui victimes d'un grand nombre de maladies dégénératives qui sont liées à l'utilisation de substances toxiques dans leur vie quotidienne.
Vous avez été auditionné vous-même, Philippe Grandcola, dans le cadre des travaux préparatoires qui ont permis l'écriture de cette proposition de loi. Évidemment, ce texte tombe non pas de votre côté. Est-ce que néanmoins, vous avez eu le sentiment que les arguments scientifiques que vous avez mis en lumière lors de ces auditions ont pu être entendus, écoutés, pris en compte d'une manière ou d'une autre ?
Bah écoutez, je crois que dans les débats ont été très vifs, notamment à la commission des affaires économiques par laquelle j'avais été auditionné en tant que représentant du CNRS, en présence également d'un collègue de l'INSERM, Robert Barouki, et puis spécialiste de toxicologie humaine, et puis Vincent Motagnol, un collègue du CNRS. Et on nous a posé des questions auxquelles on a essayé de répondre d'une manière la plus documentée possible sur les effets de ce type de produits dont on pense toujours qu'ils sont immédiats et peu rémanents, alors qu'en réalité, ces produits restent dans l'environnement pendant des centaines de jours, occasionnent des questions de toxicité chronique. Donc on a renouvelé nos réponses de manière que les députés présents aient bien conscience des risques qui sont encourus par les agriculteurs, les riverains, et puis d'une manière générale pour l'ensemble de la biodiversité. Malheureusement, alors les débats, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ont été assez vifs dans cette commission, et donc je présume qu'il y a des personnes qui l'ont compris. Malheureusement, il y a d'autres personnes, manifestement, qui ne le comprennent pas, et manifestement qui sont prêtes à faire prendre des risques de santé graves pour les agriculteurs et pour le reste de la biodiversité. Il faut se rappeler que là, on parle par exemple de filières comme noisettes ou betteraves qui ne sont pas pollinisées par des insectes. Mais bien évidemment, il y a beaucoup d'entreprises agricoles qui ont des cultures, y compris par exemple du colza ou du tournesol en agriculture conventionnelle, et qui ont absolument besoin de pollinisation pour avoir une productivité. Il faut se rappeler qu'un champ de colza en agriculture conventionnelle qui n'est pas pollinisé par les insectes, il perd 30% en productivité. Donc même si on fait abstraction de toutes les questions de risque pour la santé humaine, pour la biodiversité, utiliser une telle substance, c'est aussi finalement se tirer une balle dans le pied quand on est un agriculteur. Donc je pense pas malheureusement que la plupart des entreprises agricoles tireront bénéfice de cette loi si jamais elle était adoptée. Et puis ça serait aussi un déni de science, parce que si on dénie son rôle à l'ANSES pour la mise sur le marché des produits, ça veut dire finalement qu'on ne tient pas compte de la littérature scientifique et qu'on tient pas compte des risques pour l'environnement et la santé humaine, mais qu'on préfère tenir compte des impératifs économiques, quelles que soient les conséquences, à moyen ou à long terme.
L'extrait d'un documentaire diffusé sur Arte depuis 2021, il s'intitule « La forêt des abeilles sauvages ». On va faire le lien entre ce que vous décrivez là et l'impact justement sur la biodiversité, notamment sur les insectes.
Il y a de ça des milliers d'années, l'homme a sorti l'abeille de la forêt et en a fait un animal domestique. Depuis longtemps déjà, le commerce des abeilles se fait par-delà les frontières. Comme pour les races de chiens ou de bétail, la reproduction, les croisements et même l'insémination artificielle créent de nouvelles espèces d'abeilles plus industrieuses et plus pacifiques que les sauvages de la forêt. Dans les années 1970, le destin de l'abeille en tant qu'animal sauvage est scellé. Alors que les gens célébraient les Jeux Olympiques à Munich, les dernières ouvrières appartenant à l'espèce des abeilles noires récoltaient leur nectar. Depuis, on ne voit quasiment plus que les abeilles domestiques, plus claires. Les abeilles sauvages ont été supprimées afin qu'elles ne se mélangent pas aux abeilles domestiques à haut rendement.
Vous avez évoqué, Philippe Grandcola, le risque de la réintroduction de l'acétamipride, notamment sur la population d'abeilles. Si j'élargis le spectre, il y a aujourd'hui des chiffres qui paraissent régulièrement dans la presse et qui montrent l'effondrement des populations d'insectes. Est-ce qu'on est en train d'assister à une extinction silencieuse, à un effondrement silencieux, la sixième extinction de masse ?
Oui, tout à fait. En fait, elle a été diagnostiquée depuis plusieurs années sur la base de milliers de travaux scientifiques, hein, par le GIEC de la biodiversité, l'IPBES, qui en a fait la synthèse. Et effectivement, en Europe, on a régulièrement des études qui paraissent et qui montrent une dégradation, un effondrement des populations d'insectes. Dans les milieux industriels, on est à au minimum moins 70%, voire moins 80% dans un grand nombre de cas.
Vous parlez d'effondrement silencieux. Ce qui m'embête peut-être avec cette expression-là, c'est que dans le même temps, on la voit quand on discute avec les gens, ils témoignent du fait que sur les pare-brises, ils observent de moins en moins d'insectes qui s'écrasent justement sur leur voiture. Moi-même, j'ai en souvenir un arbre à papillons lorsque j'étais enfant qui était plein de papillons et il arrivait à attirer nombre de ces insectes autour de lui. Aujourd'hui, cet arbre n'attire pratiquement plus d'insectes autour de lui. Ce que je veux dire là, c'est que cet effondrement, on peut l'observer, on en est objectivement les témoins, non ?
Oui, tout à fait. Hein. Effectivement, c'est ce qui le rend finalement encore plus dramatique, c'est-à-dire que finalement, on l'observe, il est scientifiquement quantifié, mais finalement, culturellement, c'est quelque chose qui ne semble pas faire son chemin finalement dans nos représentations culturelles. Hein. C'est un peu comme si on considérait que cette extinction n'avait pas de conséquences. Alors évidemment, les conséquences sont pas non plus forcément perceptibles immédiatement. Hein. Mais par exemple, encore une fois, si on a des productions agricoles qui s'effondrent dans certains domaines parce qu'on n'a pas de pollinisateurs, là par contre, c'est une conséquence qui est bien visible sur le moyen terme, même si elle n'est pas visible à chacun d'entre nous.
Alors justement, tirons le fil de ces conséquences. Si la population d'insectes s'effondre, est-ce que le destin, le sort de l'humanité est lié à ces insectes ?
Ben, ce qui est clair, c'est qu'on a à peu près trois quarts de nos productions agricoles qui sont liées à la pollinisation par les insectes, hein, et pas seulement l'abeille domestique, comme le rappelait ce reportage, mais également, par exemple, en France métropolitaine, plus de 5000 espèces d'insectes différentes, dont un millier d'abeilles sauvages, hein, par exemple, et qui sont très sensibles aux pollutions, très sensibles à l'acétamipride, par exemple, beaucoup plus que l'abeille domestique. Donc on est vraiment dans une situation où finalement nos productions agricoles diminuent, hein, et en fait on essaye de compenser par tous les moyens possibles, hein, ruchettes de bourdons dans les serres de tomates, apport de ruches auprès de vergers dans lesquels les traitements sont déjà beaucoup trop importants, etc. On essaye de compenser, mais évidemment on plafonne, et quand on combine ceci aux aléas climatiques, on se retrouve avec de gros problèmes de productivité agricole. Il n'y a pas que dans ce domaine également qu'il y a des problèmes. On a aujourd'hui en Europe une crise de la dispersion de graines. Vous savez que la plupart des graines d'arbres ou d'arbustes sont dispersées finalement par des animaux et très souvent par des oiseaux qui sont eux-mêmes insectivores. Donc si on a des populations d'insectes qui baissent de 70 à 80%, il y a des populations d'oiseaux insectivores qui baissent de manière corollaire. Par exemple, il y a actuellement un effondrement de population d'hirondelles dans un certain nombre de régions de ce fait. Et certains des oiseaux qui sont insectivores, par exemple comme les geais, s'ils régressent, qui est le cas également dans un certain nombre de régions françaises, ben là, tout simplement, nos arbres n'auront plus d'animaux pour transporter les graines et permettre la régénération de la forêt. Donc ce ne sont pas forcément des conséquences qui arrivent du jour au lendemain, et c'est bien ça qui les rend difficiles à percevoir, hein, mais ce sont des conséquences bien réelles et qui vont nous porter tort à relativement moyen terme.
Dans plusieurs articles, Philippe Grandcola, vous faites une distinction, celle qui démarque, délimite les animaux que l'on considère, que les êtres humains considèrent comme charismatiques, et ceux, j'allais dire, qui sont qualifiés, par vous-même d'ailleurs, d'anti-charismatiques. Alors on va avoir une empathie naturelle pour les espèces charismatiques, on va s'intéresser à la disparition de l'ours polaire. En revanche, les moustiques, par exemple, qualifiés d'anti-charismatiques, on va peu ou prou ne pas s'y intéresser. Pourquoi est-ce que c'est un problème ?
Alors effectivement, c'est un problème parce que c'est bien pour les espèces charismatiques puisque ça permet qu'on y fasse attention hein, et qu'on essaye de résoudre éventuellement les problèmes dont elles souffrent. Par contre, pour les espèces anti-charismatiques, on pourrait se dire effectivement quel problème que les moustiques disparaissent. Bon, sur 3000 espèces de moustiques dans le monde, vous en avez une vingtaine hein, qui piquent et qui transmettent des maladies aux humains et qui sont donc très dangereux hein, puisqu'ils sont responsables de centaines de milliers de morts. Donc là, on a des traitements, on a des stratégies qui permettent d'essayer d'éviter que ces maladies continuent à croître en importance. Mais il faut se rappeler aussi qu'il y a beaucoup d'autres espèces de moustiques qui sont la nourriture des chauves-souris, par exemple, ou d'un certain nombre d'oiseaux. Une chauve-souris insectivore peut manger jusqu'à 1000 moustiques par nuit. Si tous les moustiques disparaissent, on va ne plus avoir non plus de chauves-souris ou d'oiseaux insectivores en quantité. Et là, on aura des populations de certaines espèces indésirables parce que les prédateurs qui étaient là pour les réguler auront disparu. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut garder un peu d'espèces quelquefois qui ne nous plaisent pas pour pouvoir garder le système tout entier, l'écosystème tout entier fonctionnel avec ses régulateurs naturels. Sinon, ben, on est obligé de réguler à la place et c'est économiquement, humainement, matériellement impossible.
Je vous cite Philippe Grand-Colas dans une tribune que vous avez fait paraître dans le journal Libération. Rendez-vous compte, écrivez-vous, nous avons dû créer un mot biodiversité pour désigner ce dont nous faisons partie et dont nous dépendons pour chaque aspect de notre vie. Avant 1986, nous n'avions même pas de terme pour désigner la diversité du vivant dans les sociétés occidentales. Pourquoi ce terme-là, ce terme nouveau, ce terme forgé au cœur des années 80 est-il si important justement aujourd'hui pour comprendre ce qui est face à nos yeux ?
Mais effectivement, on a du mal à se rendre compte que nous-mêmes, nous sommes partie de la biodiversité, hein, qu'on pèse tous 2 kilos de bactéries indispensables à notre santé, que ces kilos de bactéries dépendent de notre alimentation, 5 fruits et légumes par jour, dépendant elles-mêmes de milliers d'espèces qui sont dans le milieu naturel, les pollinisateurs, les bactéries du sol, les agresseurs des agresseurs de ces cultures, etc., etc. Donc si on multiplie, vous voyez ce tableau, on se retrouve que on est au milieu d'un environnement dans lequel on dépend entièrement du vivant. Même la régulation climatique, on voit comme un phénomène uniquement physique. Ben, il faut se rappeler que 30% de nos émissions de gaz à effet de serre sont captées par la photosynthèse des arbres et des algues. Et tous ces organismes vivent dans des systèmes dans lesquels il y a des équilibres relativement stables et naturels. Et si on les perturbe, évidemment, on se retrouve avec des problèmes en cascade qui nous posent souci et qui nous posent d'autant plus souci qu'on a du mal à les comprendre dans nos représentations culturelles et donc du mal à mettre en place les politiques publiques qui sont adéquates. Et c'est bien le problème que l'on voit aujourd'hui avec cette proposition de loi Duplomb. Hein. On a beaucoup de mal finalement à considérer que dans certains cas, les risques sont beaucoup trop importants pour qu'on considère peut-être une petite augmentation de bénéfices, aussi cruciale soit-elle pour telle ou telle filière.
La voix de l'une de vos collègues, Philippe Grand-Colas, elle s'appelle Sabrina Gaba, elle est écologue comme vous. Elle s'exprimait dans le podcast du journal Le Monde intitulé « Chaleur humaine ».
Toutes ces molécules sont présentes, qu'il y a une contamination qui est globale, qu'il y a une rémanence beaucoup plus importante que celle qui était pensée au départ, ou en tout cas celle qui est nommée, ou en tout cas qui est énoncée lors de la mise sur le marché de ces molécules. Là, par exemple, on continue chaque année à quantifier des molécules, des néonicotinoïdes dans les sols ou dans les nectars de colza, alors que c'est interdit depuis une bonne dizaine d'années pour certains. De la même manière, dans l'ensemble des molécules qui sont recherchées, on va retrouver du lindane ou du DDT, qui sont des molécules qui sont interdit, par exemple, le DDT depuis 50 ans. Donc oui, effectivement, cette contamination est globale et on continue de vivre avec, même si les doses peuvent varier en fonction des molécules.
Cette contamination est globale, vient de dire Sabrina Gaba, Philippe Grand-Colas. Quand on entend ça, que peut-on faire ? On a le sentiment que l'histoire va dans le mauvais sens, qu'elle suit son mauvais cours.
Oui, tout à fait. On s'est lancé finalement dans une agriculture industrielle après la Seconde Guerre mondiale, hein, en parallèle avec une croissance démographique et une révolution technologique. Et dans un premier temps, ça a semblé produire évidemment des bénéfices importants. Hein. On parle de nourrir le monde, bien sûr. Et puis, on se rend compte aujourd'hui que finalement, les pratiques qu'on employait sont pas adéquates. qu'il faudrait les raisonner beaucoup plus, parce que là, finalement, on arrive à nourrir le monde, on arrive même à gaspiller, puisqu'on jette 30% de ce qu'on produit au niveau mondial, et puis qu'on produit beaucoup plus de nourriture pour les animaux d'élevage industriel, pour les riches occidentaux, que pour réellement nourrir le monde. Mais on s'aperçoit aussi que tous ces modes d'élevage et de culture ont des effets tellement terribles sur l'environnement qu'on commence à en souffrir dans notre chair, hein, notamment avec l'accroissement énorme, explosif des maladies dégénératives, y compris dans des environnements comme ceux de la France métropolitaine. Hein. Il faut se rappeler aujourd'hui que on emploie quelquefois des substances qui ont des propriétés qui sont absolument délirantes en regard de l'usage que l'on en fait. Hein. Jusqu'à il y a encore très peu de temps, le sixième herbicide le plus utilisé en France, un herbicide qu'on mettait directement dans des cultures en plein champ, était un polluant éternel. Hein. Mmh. Il vient faire l'objet d'une limitation au niveau européen. Donc on est vraiment dans une situation où on doit absolument cesser et transformer le système. C'est tout à fait possible au plan technique. Mais il faut une volonté politique.
Merci beaucoup, Philippe Grandcola. Ça n'était pas joyeux, il faut le dire, de vous écouter, de vous entendre, mais c'était néanmoins important. Je rappelle que vous êtes écologue, directeur de recherche au CNRS, adjoint scientifique de l'Institut Écologie et Environnement. Merci d'être venu ce soir à distance dans Questions du Soir.